Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct de Barcelone.
Georges Quirino.
Salut à toutes et tous, hola a todos, parce que nous sommes toujours en Espagne, en Catalogne, à Barcelone, lieu de grand départ, du grand départ du Tour de France, 113e édition. Ça a commencé hier et l'intégral Tour évidemment est ici sur RMC tous les jours, mais vous entendez le chant des supporters de l'équipe de France parce que, bah, écoutez, comme vous, on a veillé très tard ici en Catalogne pour suivre la victoire de l'équipe de France dans un match suffocant face au Paraguay. Les Bleus en quart de finale de la Coupe du Monde face au Maroc. Ce sera jeudi à suivre sur RMC. Les grandes gueules du sport autour de la table aujourd'hui. J'ai deux Savoyards, un Mayennais, un Marseillais.
Deux Hauts Savoyards.
Faut que je fasse attention. Je sais que ce genre de choses. Ouais, il faut pas se mettre à dos une partie de notre public. Si j'ai blessé qui que ce soit, je m'en excuse. Jérôme Coppel est là. Salut Jérôme.
Salut Georges, salut les amis.
Pascal Duprat est là. Salut Pascal.
Salut Georges, bonjour à toutes et à tous.
Marc Madiot est présent, salut Marco.
Salut à tous.
Et donc un renfort marseillais pour notre première heure, un habitué et des grandes gueules du sport évidemment, et l'RMC, c'est Eric Dimeco qui est là, salut Eric.
Salut Georges, salut les copains, salut à tous, salut.
Bon Eric, t'es prêt à parler de vélo ou pas?
Ah ouais, ça va, bah oui, sans problème.
Ah
ouais,
oui,
ouais.
Bah oui, bah bien sûr. Oui.
Non, bon, à part tu sais, j'habite pas loin du Mont Ventoux, donc j'ai été bercé quand même par le Tour de France. Je vais te raconter un truc. La première fois que je suis allé au Mont Ventoux, j'étais tout petit. Ouais. Et mon père m'a montré la stèle de Tom Simpson. Et cette histoire m'a traumatisé, mais c'est un truc qui m'a marqué à vie. C'est-à-dire que pour moi, le Mont Ventoux, c'est la stèle. La première fois que je suis passé devant la stèle de Tom Simpson, bien et sûr. Toute l'histoire que mon père m'a racontée derrière avec cette histoire incroyable.
Voilà. Sport, c'est de la transmission, c'est pour ça. Et après, on est marqué par tout ça. Tom Simpson, on se rappelle, décédé dans la montée, un arrêt cardiaque dans la montée du Mont Ventoux. Ah, ça, c'est les histoires, hein, Marco. 1967. Tu courais pas encore? Ah non, quand même pas.
Mais je suivais déjà.
Tu suivais déjà. Allez, les grandes gueules du sport au programme. Aujourd'hui, évidemment, à 10h sur le ring, on va parler vélo. Jonas Vingegaard a-t-il envoyé un vrai message à Tadej Pogacar? Vingegaard en jaune pour la première fois depuis 3 ans après le chrono par équipe. Hier, vous votez sur le compte X. DGG, 11h30, punchline de Pote Sexas à 39 secondes du maillot jaune ce matin. On a limité la casse, dit-il. Est-ce que la première étape du français est positive? À 10h30, punchline également de Kylian Mbappé. Si vous ne l'avez pas écouté, on vous la refera entendre. S'il faut mettre les mains dans la merde, on sait le faire. Je le cite. Mbappé est-il devenu un grand capitaine sur ce mondial? Sur le buzzer, est-ce que le Maroc, prochain adversaire de l'équipe de France, c'est un adversaire inquiétant? Le zapping, on va parler Formule 1, Coupe du Monde et Wimbledon. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, remportez un bon cadeau de 50 euros à valoir sur Agfa Photo Print. Vous pouvez imprimer vos meilleurs souvenirs de vacances sur un album photo, un poster à petit prix. Par exemple, Jérôme a toutes tes photos avec Christophe Cessieux, toute l'équipe de l'intégral Tour.
Par exemple, les mettre sur un bug. Ils font des grands formats pour que Christophe rentre dedans ou pas?
On va voir si ça s'imprime sur des jarres. Effectivement. Allez, pour participer, vous appelez le 32-16 touche 4 Royer Sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Mais d'abord, donc, presque comme en 98, hein, le Paraguay a donné des sueurs froides à l'équipe de France. Vous l'avez vécu cette nuit sur RMC.
La une des grandes gueules du sport.
C'est parti pour France-Paraguay, 8e de finale de la Coupe du Monde.
Attention Mbappé, la prise de balle pour accélérer. Voilà, il se fait accrocher, il repousse son adversaire.
C'est pas possible.
Attention, attention, ouais, c'est chaud sur la pelouse là. Le corner de Dembélé, c'est parti, deuxième poteau vers Saliba, la tête de Saliba en remise. Et lui aussi, il a fini au sol, là, ils font même du judo, là, ils font du catch, du judo, de la boxe, c'est pas possible là.
Ils sont dans la provocation, il y a des insultes là, au moment où on vous parle.
Attention, surtout rester dans le match, ne pas se faire avoir parce que c'est le jeu des Paraguayens. Il faut surtout garder ses nerfs. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Mbappé, racontez.
Il lui met un coup sur le bras. Bon. Et c'est un coup volontaire du joueur paraguayen dans la course de Kylian Mbappé,
qui est
très clairement,
mètres.
Qui est à 30 mètres, qui accélère et qui tombe.
Non mais là c'est pas possible, c'est pas du foot amateur là-haut. C'est la Coupe du Monde là. Qu'est-ce que c'est que ça?
Doué, il va rentrer dans la surface, il va accélérer, il est passé désiré. Oui, oui. Le crochet, pourquoi pas la frappe enchaînée, il n'y a pas de pénalty. Et Steve l'arbitre, il va aller voir l'image, Ça peut sentir bon.
Pénalty pour l'équipe de France. L'occasion rêvée pour faire sauter ce verrou paraguayen. C'est parti pour Mbappé, la prise d'élan, la frappe, but! Le but de Kylian Mbappé! C'est fini! c'est fini. L'équipe de France est en quart de finale de la Coupe du Monde. L'obstacle paraguayen a été difficile à passer, mais les Bleus de Didier Deschamps l'ont franchi. Victoire 1-0 de l'équipe de France.
Oh là là, ça nous fait presque du mal de réécouter tout ça parce que ce fut compliqué. 1-0, un petit but à 0 et la lumière est venue de Kylian Mbappé sur un pénalty provoqué par Désiré Doué à la 71e pour faire sauter l'imposant verrou paraguayen. Près de 80% de possession de balles pour les Bleus et seulement 3 tirs cadrés. L'armada offensive française a été muselée par les Paraguayens, mais les Bleus retrouveront le Maroc, donc vainqueur du Canada 3-0 en quart de finale jeudi à 22h heure française à Boston. Les GG, je vous pose la question pour débuter cette émission. Vous me répondez par oui ou par non d'abord. Est-ce que cette victoire difficile rend les Bleus encore plus forts? Marc Madiot.
Non.
Pascal Duprat.
Non.
Éric Dimeco.
Oui.
Et Jérôme Coppel.
Oui.
Oh là, deux oui, deux non, vous êtes parfaits les amis. On vous attend au 32-16 évidemment et sur WhatsApp au 06-12-424-424 où j'ai déjà beaucoup de messages ce matin, notamment de Damien qui me dit mais est-ce que l'arbitre va être sanctionné parce que la France a eu 3 cartons jaunes, les Paraguayens n'en ont pas eu. Il y a déjà beaucoup de messages là-dessus. Il y a eu beaucoup de souffrance hier à ce sujet pendant la rencontre. Arthur Perrault est au plus près des Bleus pour RMC aux États-Unis. Salut Arthur.
Salut les GG, bonjour à toutes et à tous.
Alors Arthur, on imagine que les Bleus étaient soulagés après ce match très très compliqué sous une grosse chaleur.
Oui, une rencontre étouffante et particulièrement tendue qui restera longtemps gravée dans la mémoire de l'attaquant Bradley Barcola.
J'avais jamais joué un match comme ça avec autant de coups, je veux dire des coups en traître, des poussettes dans le dos. Donc ouais, c'était compliqué, mais on a gagné, donc on va retenir que ça.
Face à des Paraguayens très agressifs, les Bleus n'ont jamais craqué avec un comportement exemplaire de guerrier. Il faut dire que le sélectionneur Didier Deschamps avait tout anticipé, selon le défenseur William Saliba.
Ouais, le coach nous avait prévenu 2-3 jours avant de rester dans notre match, de montrer quelques vidéos, ça nous rentrait dedans, faire des fautes, nous provoquer, et qu'il fallait qu'on reste dans notre match, parce que si on commençait à perdre l'énergie, à nous embrouiller et sortir de notre match, ça allait pas le faire. Donc reste concentré, c'est pas facile et ça fait aussi du bien des fois de gagner les matchs difficilement comme ça, parce que le début de la compétition on est habitué à en mettre 3 et aujourd'hui c'est une victoire 1-0, mais ça a le même mérite.
Un succès dans la douleur, mais un succès révélateur. Cette équipe de France ne sait plus seulement séduire en attaque avec ses stars, elle sait aussi faire bloc, résister et gagner.
Voilà, effectivement, gagné pour les Bleus, qualifié en quart de finale face au Maroc. Ça a été très difficile, évidemment. Est-ce que cette victoire compliquée rend les Bleus encore plus forts, Pascal Duprat?
J'ai répondu non, on n'avait pas besoin de ça pour savoir que l'équipe de France était forte, faisait partie des favorites de cette compétition. Hier, il y a deux paramètres qu'on a plus ou moins maîtrisés, que les joueurs ont maîtrisé avant le coup, leur sélectionneur également, c'est la chaleur qui a compté hier, c'est le bloc bas des adversaires, le côté truqueur bien entendu de ces Paraguayens, presque provocateurs, à la limite simulateurs, oui. En fait. Donc, mais le paramètre qu'on n'avait pas anticipé, et là c'est à mettre au crédit des Français, c'est la pauvreté de l'arbitrage. Voilà. Donc si la pauvreté de l'arbitrage, quand on a maîtrisé tous ces paramètres-là, justifie la première mi-temps indigente de l'équipe de France, certainement la plus mauvaise première mi-temps, plus mauvaise que la première mi-temps contre le Sénégal de mon point de vue. Techniquement, ça manquait de justesse. L'intensité était bien trop faible. La mobilité, quasi nulle. Au niveau des CPA, consternant d'inefficacité. Les frappes, pas toujours bien exécutées. Pas de frappe de loin, pas de mouvement venu de l'arrière. Il n'y a pas de milieu qui est venu contrarier ce bloc bas. Donc, l'équipe de France reste, pour ma part, et je le dis depuis longtemps, la favorite pour gagner la Coupe du Monde. Mais c'est pas ce match-là. Si je me mets à la place des Marocains, je suis pas plus craintif en regardant ce match.
Au contraire,
qu'avant cela. Je me dis qu'il y a peut-être un coup à faire. Je pense que les Marocains sont meilleurs, bien entendu, que les Paraguayens. Défensivement, ça va pas être le même match. Là aussi, bien sûr. Mais si je compare, cette équipe du Paraguay, elle est moins bonne que le Cap-Vert. Voilà. Moins bonne que le Cap-Vert. Je pense que l'équipe de France aurait dû faire beaucoup mieux. Mais encore une fois, ça a beaucoup de crédit à partir du moment où moi je ne fais que les encenser. Un autre exemple, Olise. Tout le monde disait qu'Olise était un virtuose. Je le concède également, c'est un virtuose. Par contre, hier, il m'a montré une autre facette de son talent, la nonchalance. parce que sur quelques prises de balles, j'ai trouvé moins concerné, qu'on soit bien, mais presque déstabilisé par l'équipe adverse.
Ah non, mais c'est intéressant, je t'attendais pas là-dessus, Pascal. Tu vois, ce matin, tu penses peut-être que l'image de ces bleus dominants, c'est peut-être un peu effrité. On va pas non plus aller plus loin que ce mot-là. Eric, toi, tu penses au contraire que ce genre de match, ça, c'est quoi? C'est quand tu sors ce genre de match, t'es un survivant, en fait, derrière, t'es un supplément d'âme.
Bien sûr que ce match-là ne change pas la vision qu'on a de l'équipe de France et du niveau de l'équipe de France.
Ouais.
On sait qu'ils, avant la compétition, on les avait placés dans les deux, trois grands favoris, avec l'Argentine, l'Espagne, pas loin derrière les Anglais, les Portugais. Bon, la hiérarchie, on l'avait faite à peu près tous de la même manière. Donc, sauf que après les premiers matchs, on est devenus les très grands favoris. Mais quand on arrive sur les matchs à élimination directe, on a des adversaires qui nous proposent d'autres manières de jouer, d'autres équations à résoudre. Il n'y a pas qu'une manière de jouer au football et de gagner au football. Il y a ce qu'ont fait les Paraguayens hier soir. En plus, on le savait. On savait qu'ils allaient pourrir le match, qu'ils allaient jouer bas. On a souvent beaucoup de mal contre les équipes qui jouent bloc bas. C'est les équipes qui me posent le plus de problèmes depuis toujours. Parce qu'on manque de profondeur, parce que des garçons qui vont vite, du coup, non plus cette profondeur-là. Donc, à la limite, ça, pas d'enseignement supplémentaire. Par contre, moi, je vais revenir sur les déclarations de Barcola. Quand Barcola nous explique qu'il a jamais joué de match à ce niveau-là, aussi pourri, avec un adversaire qui pose, qui joue avec la limite de la règle tout le temps. Alors, la limite, elle était un peu loin, parce qu'en effet, comme dit Pascal, on n'a pas eu de chance de tomber sur un arbitre pas mauvais. Très mauvais. C'est-à-dire que, normalement, dans le football actuel, ça, le football qu'on a vu hier soir, c'est celui qu'on a connu avec Pascal. Je crois qu'on a à peu près le même âge. Où on pouvait pourrir les matchs sans être, inquiété.
Non, je suis pas trop dur avec vous-même. Je sais pas si vous avez vraiment pourri des matchs avec Pascal.
Mais quand je veux dire, c'était un autre football. Les nouvelles règles et la VAR, devait nous mettre à l'abri de ce genre de match. Bon, mais là, il se trouve qu'on est tombé sur un bidon. Bon, ben voilà. Et pour moi, c'est là où on a progressé. C'est dans l'attitude des joueurs. Moi, j'ai vu, normalement, on aurait pu tomber dans le panneau. La seule peur que j'avais hier soir, c'est qu'on tombe dans le panneau, qu'on se fasse expulser un joueur, que le fait de rentrer dans ce qu'ils nous ont proposé.
Dans le piège, en fait.
Le piège, voilà, ouais, parce que c'était un piège. Donc, on n'y est pas tombé. Et donc, tu ne sors pas indemne de ce match-là. Voilà. On n'est pas plus favori qu'avant. On n'est pas moins favori qu'avant. On fait ni plus ni moins peur qu'avant. Et je crois qu'on fait beaucoup peur depuis le début de la compétition. Donc ça, là, je suis d'accord avec Pascal. Par contre, pour moi, on ne sort pas le comportement des joueurs et le self-control, voire même la manière dont ils ont eu de se rebeller pour certains, voire de le prendre à la rigolade. J'ai vu Mbappé souvent sourire, mais parle espagnol, donc d'après moi, ils ont dû bien se chambrer. Et je pense que tu sors renforcé de ce genre de match. D'ailleurs, Mbappé le dit, et donc voilà. Donc pour moi, c'est pas anodin ce qui s'est passé hier soir pour le vécu de l'équipe de France et pour ce qui va se passer derrière.
Je peux vous dire d'ailleurs qu'en Amérique du Sud, ce matin, ils ont fait pas mal de lectures labiales sur les mots de Kylian Mbappé et sur l'attitude même de fin de match.
Est-ce qu'ils ont fait des lectures comportementales sur leurs joueurs?
T'imagines que non. T'imagines que l'analyse était un peu déséquilibrée, et que c'est plutôt les Français qui ont été présentés comme nonchalants, et les Paraguayens comme des joueurs héroïques.
Comme disait.
Non, pas trop de chalance. Marc, Madio, toi sur cette équipe de France, pas forcément plus fort après un match comme ça?
Non, pas forcément plus fort, mais étape nécessaire et indispensable si on veut aller plus loin. C'est une lapalissade. Mais avant d'aller en quart de finale, il faut passer les huitièmes. Et avant d'aller en demi, il faut passer les quarts. Donc partie.
Mais les batailles mentales, c'est important.
Non, mais la bataille mentale.
Dans tous les sports.
Oui, hier, dans le couloir, avant de rentrer sur le terrain, tu savais ce qui allait se passer et tu voyais sur la gueule des
Paraguayens joueurs
ce qui allait arriver. Donc il n'y a pas eu de surprise et je trouve qu'ils ont. Ils ont maîtrisé la situation. C'était pas facile de marquer, mais en même temps, tu n'imaginais pas une seconde qu'ils allaient être battus. Donc, si tu veux, il y avait une espèce de contraste. En fait, il y avait une espèce de tempo où les Paraguayens attendaient une opportunité. Ils savaient qu'ils en auraient pas deux, qu'ils en auraient peut-être une. Ils l'ont pas eu. Mais s'ils avaient marqué les premiers, on aurait été en grande difficulté. Mais comme ils n'ont pas marqué et que la France avait la maîtrise quand même du ballon et du temps, Il craignait pas grand chose, mais fallait match, concrétiser.
C'est un match angoissant, mais
c'est d'aller au tir au but.
Ah, c'est le truc qu'il faut passer. Tu sais que tu vas passer par. Dans une Coupe du Monde, quand tu regardes bien l'histoire de la Coupe du Monde et notamment de l'équipe de France, il y a toujours au moins un match.
Galère.
Dans un match qui va te pourrir la vie et qui peut te faire sortir définitivement. Donc ils ont passé le cap.
Les Allemands sont tombés dans le panneau.
On va tomber dans. Là maintenant, on va rentrer dans une autre phase de la Coupe du Monde avec le Maroc et si tout va bien, ça sera sans doute l'Espagne. On va rentrer dans ce qu'est la vraie Coupe du Monde et dans ce qu'on attend des grandes équipes et des grandes.
C'était pas la fausse jusqu'alors. Il faut,
Non.
Il faut considérer que c'est la Coupe du Monde.
C'était pas
la
dur. Non, mais ça en fait partie. Ça en fait partie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça en fait partie.
Jérôme.
Non, mais moi, je suis Tim Eric et je trouve que quand tu sors d'un bourbier comme ça où t'as 11 joueurs qui défendent dans leur propre camp où ils essayent de te provoquer tout le temps, juste le fait qu'ils aient gardé leur nerf, tu sors forcément plus fort. Depuis le début de la Coupe du Monde, ils ont pas connu ça. C'est le piège par excellence. Pas par le jeu, mais par l'attitude des autres joueurs. Tu peux, j'ai lu une déclaration ce matin de Zlatan Ibrahimovic qui disait, moi, j'aurais pris 4 cartons rouges sur un match comme ça. Et ben, ça aurait très bien pu arriver et pas au bon moment. Donc tu sors forcément plus fort. C'est comme en vélo, si t'aimes pas les bordures, t'as une étape de bordure, tu t'en sors, il faut la passer. T'es sorti d'un bourbier, t'es forcément plus fort parce que t'as plus de confiance.
T'as gardé
voilà, exactement.
Non, mais t'as pris de l'expérience.
T'as pris l'expérience, t'es forcément plus fort quand t'as réussi à garder tes nerfs et que t'as battu une équipe comme ça. Donc c'est pour ça que je pense que même si avant ils ont réussi à dominer par le jeu, là ils ont dominé et par le jeu et par l'attitude surtout.
Est-ce que cette victoire difficile rend les bleus plus forts? Oui, Eric, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, mais après, ça parlait de ce genre de match. Généralement, pendant une Coupe du Monde, on monte en puissance et on progresse par rapport à ce que les adversaires te proposent. On se souvient de la dernière Coupe du Monde, de la manière dont on arrive en finale, ce qui se passe en finale, et puis on peut s'amuser à refaire l'histoire des Coupes du Monde. Donc, quoi qu'il arrive, c'est l'équipe qui progresse le plus tout au long de la compétition. Et pas que dans le jeu, hein, dans la confiance, ouais, dans le physique, dans l'impact, parce que il y a des équipes qui vont arriver peut-être au bout ou qui sont déjà arrivées et qui sont pas passées du coup, pas moins bien physiquement. Donc obligatoirement, quoi qu'il arrive, dans une Coupe du Monde, au fur et à mesure que tu passes des tours, tu prends de la confiance, tu prends de l'assurance et tu récites tes gammes tout au long de la compétition finalement. Donc
tiens, sur WhatsApp,
ça parlait de ce match là.
Au 06-12-424-424, j'ai plein de messages. Tiens, Clazol qui dit, ce n'est pas la faute de l'arbitre si tu n'es pas capable de marquer un but dans le jeu. Donc un message un peu dur aussi peut-être sur le niveau de l'équipe de France. Alors,
ce qui est quand même
plus dur
réalité
que ce que disait Pascal, mais une réalité, tu dis Marc ?
Oui, parce que on a largement évoqué l'attaque de l'équipe de France qui est exceptionnelle, qui est fantastique et qui est la meilleure du monde. Mais quand on tombe sur le Paraguay qui joue derrière, on n'est pas capable de marquer.
C'est
quand même un constat.
Mais tu vas pas retrouver l'adversaire comme ça.
Bien évidemment. Mais ça montre qu'il y a plein de paradoxes.
Pascal, cela dit, si ce match est arbitré comme il doit l'être, c'est-à-dire un arbitrage contemporain, avec l'aide de ses collaborateurs, ses assistants, mais aussi ceux qui sont dans le car et qui regardent tout, normalement, les Paraguayens doivent finir le match à 9. Donc, fatalement, pour la France, c'était tout d'un coup
plus
compliqué. Je me serais cru au catch. Il y a 3 cartons jaunes pour l'équipe de France, ok, et il y a 0 carton pour les Paraguayens. On a l'impression qu'on est comme à la bonne époque. Eric parlait de notre grand âge. À notre époque, quand on était gamin, on voyait du catch à la télé. Et celui qui était salaud, le salopard, le mauvais, il était toujours protégé par l'arbitre parce qu'il ne le voyait jamais, l'arbitre, les saloperies qu'il faisait. Donc là, hier, c'était un scandale, l'arbitrage que nous a proposé.
Le bourreau de Bébec.
Non, mais sauf Marc. Sauf.
Et Chéri Bibi.
Ça, c'est le cas sûr, t'es comme des gamins, ça.
Oui,
je peux pas savoir.
Zarak.
Sauf Marc, que bien sûr que on aura des équipes qui défensivement défendront de mieux en mieux sur nous, puisque ça, d'abord le niveau monte en face et en plus tout le monde, parce que ce système à 4 avec ces 4 joueurs là est pas si vieux de l'équipe de France. Olysée vient de nous tomber de la lune depuis 1 ou 2 ans, Barcola aussi, voire Doué aussi, donc les adversaires commencent à nous analyser et parce qu'on est l'équipe à battre et l'équipe la plus impressionnante offensivement, donc on est étudié et donc ça va devenir de plus en plus difficile de marquer des buts. Sauf que en faisant ce qu'ont fait les Paraguayens, Enfin, il faut pas croire qu'on va aller gagner la Coupe du Monde en gagnant 3-0 tous les matchs, les gars, hein, pour notre auditeur là. Et en jouant aussi bas contre une équipe comme l'équipe de France, à un moment donné, il y a un accident, il y a un penalty, il y a un coup franc aux abords de la surface, il y a un carton rouge, comme l'a dit Pascal. Et ça, malgré tout, ça fait partie du jeu, et c'est l'arbitre le garant de ça. Donc, parce que dans ces cas-là, si on laisse faire ça à tous les adversaires ou à toutes les équipes de foot, ah ben il y aura plus de buts, hein, parce que si tu as le droit de pourrir les matchs comme ils l'ont fait. Bien sûr que même l'Espagne va être en difficulté quand on ce genre d'équipe là. Hein. Voilà. Donc on m'avait expliqué que le football actuel protégeait les attaquants et permettait que mais ça n'a pas été le cas hier soir. Il n'empêche que même dans ce contexte là. Eh ben, il y a une limite, c'est qu'à un moment donné, il y a un pénalty, parce que le pénalty, il n'y a rien à dire, et il y a des cartons rouges ou des coups francs bien placés. Voilà, c'est la limite du jeu du Paraguay à l'arrivée.
Mais il y a des matchs galères, effectivement, tu as raison de le rappeler, Eric, hein, c'est chez les champions du monde. L'Argentine, au Qatar, en huitième de finale, ils jouent l'Australie, ils gagnent 2-1, c'est un match galère jusqu'au dernier moment. Souvenez-vous, l'Italie en 2006, avant les champions du monde, face à la France.
Ça remontait aussi loin. Hein.
Ils sont en galère.
Tu peux remonter sur le Cap. Non mais
le Cap Vert
oui, contre l'Argentine, là où Pascal a raison, c'est que eux par contre ils ont proposé du jeu, c'est-à-dire petite nation sans histoire avec la Coupe du Monde et qui aurait pu pourrir le match où eux ils ont joué, voilà,
donc, ils ont défendu, ils ont attaqué aussi.
Voilà.
C'est ce que dit Olivier sur WhatsApp. Ce qu'il faut retenir, c'est simple, c'est que le football a gagné. On en reparle dans un instant. Cette victoire difficile rend-elle les Bleus encore plus forts? On va vous écouter au 32-16 évidemment. On revient dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport, en direct de Barcelone,
Georges Quirino.
En direct de Barcelone pour le week-end de grand départ du Tour de France. Jonas Vingegaard est en jaune avant la deuxième étape entre Tarragone et Barcelone à suivre cet après-midi dans l'intégral Tour dès 13h. Pour l'heure, on parle des Bleus qualifiés difficilement hier en quart de finale. Ce sera face au Maroc jeudi. On est avec Jérôme Coppel, avec Eric Dimeco, Marc Madio et Pascal Duprat. On se pose la question si cette victoire difficile rend les Bleus encore plus forts. Mais avant, j'ai quelque chose à vous faire gagner puisque en fait le départ du Tour, je vous le disais, RMC avec Mondial Relais, partenaire majeur de la Grand Book, vous propose de vivre une expérience incroyable lors de la 13e étape le 17 juillet entre Dole et Belfort. Vous et la personne de votre choix, vous pouvez vivre une expérience unique, l'étape dans la caravane du Tour et l'arrivée dans un espace VIP avec vue sur les derniers mètres. Pour gagner ce magnifique pack avec Mondial Relais by InPost, envoyez étape au 7-32-16, étape au 7-32-16. Voilà, si vous gagnez, vous pouvez partir avec la GG de votre choix, par exemple. Là, Marc est là. Sinon, Eric et Pascal seront très heureux d'aller sur la 17e étape. Ou sinon, Jérôme Coppel vous expliquera tous les plateaux, tous les développements de tous les vélos. Allez, on parle des Bleus, évidemment, avec vous au 32-16. Le Tour avec Mondial Relais, bien sûr.
Les grandes gueules du sport sur RMC avec Mondial Relais, partenaire officiel du Tour de France pour la 3e année. Mondial Relais, plus de 10 000 lockers et 17 000 points de collecte partout en France.
Cette victoire difficile rend-elle les Bleus encore plus forts, les amis? En débat entre nous depuis tout à l'heure, je voulais qu'on écoute les supporters de l'équipe de France au 32-16. Thomas qui nous appelle. Salut Thomas.
Salut tout le monde.
Bon, t'as bien dormi après ce match déjà, ou ça a été difficile de trouver le sommeil?
Bah écoutez, ça a été, moi j'habite à Munich, donc j'ai vu le match avec des Allemands autour qui supportaient l'équipe de France, c'était assez original, parce que l'Allemagne était sortie par le Paraguay avec le même genre de match, donc non, ça a été soulagé quand même, parce que bon, on a été vraiment stressé tout le match, mais bon, c'est le genre de victoire qui font plaisir à la fin quand même.
Bah, est-ce que tu penses, on se posait la question, que ce match peut rendre les Bleus encore plus forts, hein? C'est notre débat.
Moi, je pense quand même, il y a un côté résilience qu'on n'avait pas encore trop vu. Là, c'était vraiment une bataille mentale et physique plus qu'une bataille tactique, hein. Les Paraguayens n'étaient pas venus pour jouer. Donc, je trouve qu'ils ont montré un autre aspect de leur, de ce qu'ils savent faire. Je trouve aussi que transformer ce genre de pénalty dans ce genre de match peut être très costaud. On a eu un Manu Koné hyper fort, enfin un Upamecano aussi vraiment assez impérial. Non, je trouve qu'ils montent en puissance tout doucement, et ils montrent différents aspects de ce qu'ils savent faire.
Ils montent en puissance. Tu dis, tiens, je voudrais qu'on écoute William Saliba, le défenseur de l'équipe de France. Après la rencontre, il nous parle de comment les Bleus ont abordé cette rencontre qui s'annonçait piégeuse.
Ouais, le coach nous avait prévenu 2-3 jours avant de rester dans notre match. Il nous a montré quelques vidéos, qu'ils allaient nous rentrer dedans, faire des fautes, nous provoquer, et qu'il fallait qu'on reste dans notre match, parce que si on commençait à perdre l'énergie, à nous embrouiller et sortir de notre match, ça allait pas le faire. Donc rester concentré, c'est pas facile, et ça fait aussi du bien des fois de gagner les matchs difficilement comme ça, parce que depuis le début de la compétition, on est habitué à en mettre 3, et aujourd'hui c'est une victoire 1-0, mais ça a le même mérite.
Voilà, c'est le même mérite, Pascal. On prépare les joueurs à des matchs comme ça. À quel point, parce que là il dit on avait regardé plusieurs vidéos et tout. À quel point on prépare les mecs en fait à jouer un match face à une équipe qui veut pas jouer.
L'objectif, c'est de maîtriser un maximum avant le coup des paramètres, ou en tout cas d'avertir les joueurs sur tout ce qui peut se passer. Et là, forcément, Didier Deschamps et son staff ont prévenu les joueurs que ça allait être compliqué, qu'ils allaient être provoqués. L'attitude de l'équipe de France, psychologiquement, par rapport à l'agressivité de l'adversaire, ouais, elle était remarquable hier. C'est juste, de mon point de vue, juste ce qu'il faut. C'est-à-dire suffisamment de fierté pour pas s'enlever du milieu, parce qu'ils se sont pas enlevés du milieu. Mbappé, il a été presque plus que provoqué. Et franchement, j'ai trouvé l'attitude limite fière, limite dédaigneuse, mais pas trop pour ne pas, subir les foudres de l'arbitre, qui, lui, sur le coup, j'en ai beaucoup après l'arbitre ce matin, il avait tendance à voir que les petits trucs des Français, à mettre trois jaunes quand même, hein. Trois jaunes à la France dans ce match, faut le faire. Vraiment, c'est remarquable de la part de l'arbitre. S'il a réussi son match, c'est le nombre de cartons qu'il a filé à la France par rapport au très peu de fautes qui ont été commises par les Français. Oui, donc psychologiquement, Deschamps a préparé son équipe. Moi, je m'attendais à mieux techniquement. C'est juste s'il y a si la France doit être davantage crainte à partir de maintenant, c'est aussi parce que tout le monde s'accorde à dire que techniquement, ils pouvaient faire beaucoup mieux, notamment sur cette première mi-temps.
Pascal, ça, je pense pas qu'on ait perdu ce crédit-là. Parce que ce que nous a proposé le Paraguay avec peu d'espace, c'est compliqué. Je crois que beaucoup ou toutes les équipes, et on l'a vu avec l'Allemagne, bon, qui est plus une grande nation, mais qui est quand même, il y a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe-là. C'est-à-dire que cette manière de jouer fait déjouer beaucoup d'équipes. Voilà. Donc, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est on ne s'est pas enlevé du milieu, parce que il y a quand même dans ce genre de match avec ce genre d'adversité et de vice, et on le répète, qui fait partie du jeu, hein. C'est-à-dire que le Paraguay, il faut savoir que les joueurs, ils vont jusqu'à la limite qu'on leur permet d'atteindre dans le physique, dans l'intox, donc c'est à l'arbitre de donner cette limite. Eux, ils sont allés jusqu'à la limite, donc et ça fait partie du foot. Mais là où tu as raison, Pascal, c'est que on s'est pas enlevé du milieu. Il y a beaucoup d'équipes, et peut-être que les Allemands, je l'avais pas vu ce match-là, hein, donc, mais peut-être que les Allemands sont tombés dans le piège, parce qu'à un moment donné, quand tu prends des coups de coude, les mecs, ils viennent comme ça, tu baisses l'intensité.
Mais c'est ça, ça montre la personnalité de cette équipe, Eric.
Voilà, où tu t'enlèves du milieu.
On n'est pas naïf.
Et ça, c'était un piège. On aurait pu s'enlever du milieu, parce que on n'est pas réputé non plus sur les attaquants comme des plus vaillants, du monde, hein. Marcola, Olise, c'est pas Sorlotte, Hollande, qui a d'autres comme attaquants qui aiment les rentrer à la maillotche. C'est pas ces attaquants-là. Donc c'était un vrai test. C'est pour ça que je parlais de progrès, parce que moi j'ai vu une facette de l'équipe de France, notamment chez les attaquants, que je ne connaissais pas ou que j'avais jamais vu, parce que bon, on ne nous a jamais proposé ce genre de match. Où ben moi j'ai vu Mbappé au moment donné dans la surface au milieu de quatre mecs, il a insulté, qui filait des coups de pied, des coups de coude et tout, ben il s'est pas levé du milieu, il rigolait et il les a insultés. Je pense qu'on va avoir je pense que les Paraguayens vont nous sortir des traductions de ce qui a été dit, terrible. Je m'inquiète pas, mais par contre ils se sont pas levés du milieu. Et ça, pour moi, c'est aussi un truc que je connaissais pas, et qu'il y a un progrès pour moi pour l'équipe de France.
Non, mais est-ce qu'on avait des doutes sur la personnalité de cette équipe, Jérôme? C'est vrai que c'est le genre de match où tu vois apparaître quelque chose que t'as jamais vu avant, quoi.
Bah, oui.
On mettait en avant la jeunesse parfois de cette équipe, là on voit autre chose.
Justement, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. D'avoir une équipe jeune, elle peut péter les plombs, justement. Elle pourrait se faire prendre par cette provocation que les Paraguayens ont donnée. Et moi, j'ai bien aimé l'attitude de Mbappé, qui était vraiment très chambreur. Ça aurait pu faire l'effet inverse sur les Paraguayens, d'ailleurs. Parce que tu sens clairement qu'ils se foutent de leur gueule. Mais toujours avec...
Il a pas serré la main, notamment.
Il est mort de rire dans les célébrations, il est devant les joueurs à applaudir, etc. Donc oui, comme disaient Eric et Pascal, ils ne sont pas enlevés du milieu, ils ont montré que malgré tout ça, ils étaient encore là. Et moi, j'ai bien aimé ce côté où on ne se laisse pas faire, mais on les chambre et on y va. Et ça, c'est pas que dans les paroles, c'est aussi dans les actes. Et comme ils ont fait, moi j'ai adoré ça.
Marc, je sais que tu as toute la dimension. Ouais, Eric.
Non, non, mais tu vas voir qu'à la fin du débat, on va tous être d'accord, on a progressé sur ce match-là.
Hein. Bien sûr,
Mais en vrai, mais c'est hyper important. Souvent, on dit dans les matchs, on a peut-être manqué un peu de vis sur certaines équipes françaises par le passé.
Dans tous les sports, parfois, en général, on est trop gentil. On dit toujours ça dans tous les sports.
Il faut savoir se mettre, s'adapter, en tout cas par rapport à l'adversaire que tu as et à l'adversité que tu vas avoir. Mais Marc, je sais que t'aimes bien regarder la psychologie des sportifs, mais le côté un peu prédateur peut-être des Français qui s'activent là face à un ennemi comme ça. Est-ce que ça compte?
Jusqu'à maintenant, on avait vu l'équipe de France flamboyante qui jouait sur son talent. Ils jouaient sur leur qualité naturelle et sur le talent qui est indéniable. Là, on était dans un autre match où ils ont mis le bleu de chauffe, ils étaient au charbon, comme on est parfois obligé d'aller pour pouvoir assurer le passage, pour pouvoir assurer l'avenir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fait, parce qu'on n'a jamais senti non plus qu'on était au bord du précipice et qu'on allait sombrer. Donc ils ont rempli la tâche, ils ont rempli la feuille de match et ils ont été chercher leur qualification. Et là, on va repartir sur un autre schéma.
Pascal, après le coup de sifflet final de l'arbitre, l'attitude de l'équipe de France, elle est juste parfaite, de Mbappé jusqu'à l'encadrement.
À quel niveau ?
Personne n'a calculé cette équipe de voyous paraguayens.
Tu l'as vu, Georges, quand même.
Ils sont allés danser devant leurs supporters. C'était juste magique. J'espérais que ça se passe comme ça. Quelle serait la paluche aux paraguayens, franchement.
Eric, je sais pas, Ryan Cherki avec le chapeau de Napoléon, je sais pas si c'est.
Comment c'est possible que le chapeau de Napoléon arrive sur la pelouse?
Tu ne balades pas toujours avec un chapeau de Napoléon au cas où une occasion se présente?
Ah oui, mais il faudrait que j'y passe la prochaine fois que je vais faire mes courses. Ça peut servir. Parce que c'est vrai que les Paraguayais cherchaient la bastos, ils étaient frustrés. Et Didier est venu rassembler tout le monde, les pousser vers les supporters. Rappelle-toi le fameux, il y a 4 ans, Argentine, Pays-Bas, qui a dégénéré à la fin, ça avait chauffé grave.
Paredes qui avait envoyé le ballon sur le vestiaire,
sur le banc de touche. Là, il avait mis un gros dégagement dans la tronche des remplaçants. donc, et on aurait pu aussi tomber dans la bastonne après match, tu vois, et peut-être prendre un rouge, parce que imagine, il y en a un qui en a mangé un là, carton rouge, pour rien comme ça. Franchement, je trouve qu'on a été bien avec une équipe jeune en plus, notamment devant.
Marc.
Ouais, non, mais je pense qu'il y avait aussi un autre qui me vient à l'esprit là maintenant. C'est du côté paraguayen, il y avait un arrière-goût de 98.
Au Paraguay, ils en ont beaucoup parlé hein, avant le match et tout. Il y avait peut-être un côté être porté par une dimension mystique de
pour réparer quelque chose.
On va proposer le même type de match qu'on a gagné.
Tu crois qu'ils avaient besoin de ça pour mettre des coups? Ils se lèvent le matin. Déjà au petit déjeuner,
ça peut les aider un petit peu. Ça peut les stimuler un petit peu. Moi, j'aurais été paraguayen. J'aurais peut-être eu ça au fond de moi, rentrer sur le terrain.
Ouais, mais parce que toi, tu utilises tous les leviers de l'histoire, toi. Toi, je suis capable.
Oui, mais ça compte.
T'es capable de dire à un genre, un coureur, tu te rappelles ce quoi? Il y a le blaireau en Espagne, Bernardino, il est tombé.
Il le fait tout le temps. Je sais pas s'il le fait encore. Ça a été mon patron, il le faisait déjà. Bien sûr. La Marseillaise avant le championnat de France, ça va plus loin. Napoléon, il aurait pu l'avoir, Marco, le chapeau, sans problème.
Tout à fait pu l'avoir, Napoléon. Marco. Je remercie Thomas d'être venu au 32-16. On accueille Michel avec nous. Salut Michel.
Salut tout le monde.
Salut Michel. Salut. Bon, tu trouves que les Bleus, est-ce qu'ils t'ont plu ces Bleus là, qui répondent un peu aux provocations et tout, avec du caractère? Est-ce que tu les trouves encore meilleurs en étant comme ça?
Bon, on savait qu'ils avaient. C'est quand même une équipe jeune, donc on savait qu'à mon avis, ils ont déjà eu des matchs, peut-être pas assez, avec cette intensité de roublardise méchante paraguayenne. Oh. C'est des jeunes et je pense que le chambrage, on l'a déjà même nous en district. Mais comme je disais tout à l'heure, je trouve un peu quand même honteux ce qu'on a vu, les coups de poing, mais même en tant que moi je suis éducateur, je comprends même pas qu'il y ait personne qui bougeait, même aller au créneau pour dire attention, c'est entre guillemets, je le dis entre guillemets, c'était quand même de la violence gratuite hier. Il y a quand même eu des coups volontaires à joueurs. Le coup de poing au Pemacano, les coups de coude, le coup, on voit ça en Ligue 1, la VAR tout de suite intervient, le coup de pied sur Mbappé, même s'il en rajoute, bon, c'est le jeu. Mais c'était des coups volontaires, et dans le règlement, c'est quoi coup volontaire à un adversaire? Donc j'étais quand même surpris. Après, dans le match, je ne vais pas dire que j'ai été dans la maîtrise, ils n'ont pas eu la clé du verrou. Ça m'a rappelé un peu le Catenaccio italien quand il marquait un but et après ils se mettaient tous derrière.
Ouais.
Voilà, après, bon, je suis un peu chambreur, mais à la VAR, il y avait un Italien. Est-ce que c'est pas le fait de pas être à la Coupe du Monde et puis qu'il nous a.
Ouais, d'accord, ils vont se venger sur les Français, hein, voilà. La conspiration improbable.
Et après, je suis content parce que j'entends Monsieur Dupraz, que je respecte, que je suis éducateur, je respecte en tant qu'entraîneur. Il dit des bonnes choses sur Kylian Mbappé parce que pour un moment, je pense que c'est des ragots que je voyais sur Internet. Mais qu'est-ce qu'il en mettait dans la tête à Mbappé pour un moment, Monsieur Dupraz? C'est un grand joueur, c'est un monsieur. Il a peut-être pas de titre depuis qu'il est parti à Paris, mais le mec est.
Oui, mais après je pense que trois de réponse, Monsieur Dupraz.
Ouais. Donc vous êtes pas savoyard vous par contre, ni au savoyard, parce que normalement on prononce pas le Z, mais c'est pas grave. Mbappé c'est un très grand joueur, et on va en parler plus tard. Ouais. Donc et il fait une superbe Coupe du Monde et son attitude elle est exemplaire depuis le début de la Coupe du Monde. Et de temps en temps quand on m'interroge notamment sur l'antenne d'RMC, il m'est arrivé de dire qu'il est insupportable. Voilà.
C'est ah ben bah, non mais de toute façon on est là pour dire ce qu'on pense et exactement. Et il n'est pas parfait tout le temps qu'il y a Mbappé et tous nos sportifs, tous nos champions ne le sont pas et on est là justement pour débattre et pouvoir dire absolument tout. Je remercie Michel d'avoir été avec nous au 32-16. Tiens, Fred sur WhatsApp me dit oui, ce type de match fait progresser la France. J'ai beaucoup de messages évidemment sur l'arbitrage. Et notamment, tiens aussi, j'ai un message d'Olivier qui me dit vous avez vu quand le Paraguayen marche sur le point de pénalty, ratisse le point de pénalty. Ça, c'est un truc très sud-américain. Hein. Ouais, c'est vraiment. C'est tu fous en l'air le point de pénalty, c'est presque un truc de superstition. Hein.
D'ailleurs, bon, tu as vu, il y a préposé un garde du corps du point de pénalty.
Ils font ça au PSG aussi. Ils envoient un mec tirer le pénalty pour faire croire que c'est lui. En fait, c'est le mec qui est derrière.
Toujours est-il que c'est très bien pensé. Parce que Dembélé, il a supporté cette pression, cette vindicte là, paraguayenne, et puis ensuite il a filé.
Ça
a été nettoyé, ouais. Il a filé le ballon à Mbappé.
Ah, mais vous savez quoi, c'est aussi ce qui est intéressant dans les Coupes du Monde, c'est que c'est des chocs culturels et on voit des choses différentes. Ce matin, je regardais en Argentine Marcelo Gallardo, ancien joueur de Monaco, l'entraîneur argentin aujourd'hui, qui disait mais vous savez, moi, il y a un truc qui marque à chaque fois quand on va jouer les Européens, c'est qu'ils n'ont pas la même agressivité que nous.
Ça, c'est vrai.
Ils n'ont pas la même agressivité que nous, mais normalement, hein, sur voilà, et ils ne comprennent pas notre agressivité. Il y a une difficulté à comprendre nos deux langages footballistiques, et c'est pour ça que les Coupes du Monde, c'est des moments bizarre, où on choque un peu.
J'ai souvenir de Gallardo se faire bouger quand même à Nord. C'est bizarre, ouais.
Et notamment à Marseille. Et notamment à Marseille. Curieuse histoire, tu as très bien raison. Très curieuse histoire. Ouais. Allez, cette victoire rend-elle les bleus encore plus forts. Tiens, on va parler des individualités dans un instant. Restez avec nous sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport en direct de Barcelone.
Georges Quirino.
Pour le week-end de grand départ du Tour de France, deuxième étape entre Tarragone et Barcelone, cet après-midi intégral tour dès 13h avec Christophe Cessieux et ses équipes. C'est Jonas Vingegaard qui est en jaune après la victoire de sa formation sur le chrono par équipe. On va parler du Tour dans un instant, justement, parce que Vingegaard a frappé un grand coup face à Pogacar. On est avec Jérôme Coppel, avec Marc Madiot, avec Eric Dimeco et Pascal Duprat. On revient pour l'instant toujours sur la qualification des Bleus en quart de finale de la Coupe du Monde. Ce sera face au Maroc, victoire 1-0 hier, difficile face aux Paraguayens avec ce but de Kylian Mbappé sur pénalty à 20 minutes de la fin du temps en réglementaire, enfin même à 30 minutes de la fin du match, hein, parce qu'il y a 10 minutes de temps additionnel. Tiens, on va écouter Didier Deschamps sur la gestion de ses joueurs sur cette rencontre.
On était en train de mener. Si on rentre dans leur jeu, on ne peut pas s'en sortir. Parce qu'eux, ils savent faire. Et puis, déjà, on prend ces trois quarts d'heure. Donc, surtout pas de gestes ou quoi que ce soit, de réaction. Oui, j'ai monté un peu le temps parce que je voyais qu'on pouvait les exciter encore un peu plus. Et il n'y a pas besoin de ça. Donc. Mais c'est mon rôle aussi, comme je suis d'une nature plutôt calme. Il y en a qui sont peut-être un peu plus excités que moi, mais bon, tout est communicatif. J'ai même calmé les joueurs aussi, parce que s'ils sortent le quatrième, il a plus à s'occuper du banc d'en face que d'une autre, quoi. Mais au bout d'un moment, il y a tellement un sentiment d'injustice qu'on ne peut pas tout accepter aussi, quoi.
Et voilà, il a su gérer. Il est plus excité que Didier Deschamps, vous pensez?
Oui.
Ouais, Pascal, toi, t'aurais pété un plomb si t'avais vu tous les Paraguayens.
Je sais pas, mais je pense pas, mais bon.
quand même, il faut saluer Deschamps. Deschamps est rentré sur le terrain à plusieurs reprises. Donc, ça montre qu'il a un self-control. Bon, en fait, on va arrêter d'être dithyrambique concernant Didier Deschamps, parce qu'on va croire qu'on est partisans. Mais bon, il remplit son rôle magistralement. Et encore une fois, même les remplacements, si on veut aller un peu plus loin. Il faut
Il y a entré Désiré Doué notamment.
Désiré Doué, il est décisif quelques minutes plus tard. Deschamps est aussi complètement focus sur cette Coupe du Monde. Il y a rien qui le perturbe. Il est à son meilleur.
Justement, moi sur les remplacements, ça m'a un peu surpris. On sait que Deschamps, il aime bien garder la même équipe, mais là avec la chaleur, on en a beaucoup parlé avant le match, etc. Il a pas fait beaucoup de changements finalement, Didier Deschamps. Et je me demandais, ça allait pas coûter cher à la fin.
Qui s'est dit attention, on risque d'avoir prolongation.
Etc. Alors est-ce qu'il gardait des changements pour après? Mais j'ai trouvé qu'il avait pas beaucoup fait tourner sur un match comme hier.
Est-ce que c'est le genre de match où on peut en tirer des conclusions peut-être sur le 11 titulaire à venir? Alors il y avait un forfait qui était acté, hein, c'était celui de Tchouaméni, remplacé par Manu Koné. Eric, je sais pas, tu l'as trouvé comment Manu Koné sur ce match?
Non, mais c'est le remplaçant naturel. C'est le premier dans la rotation après Tchouaméni et Rabiot. On a compris maintenant puisqu'il a joué sur un match de poule et on se rend compte qu'il fait le job plus que bien. Donc voilà. Après sur le côté gauche, on a compris qu'il y a débat aussi depuis un long moment. Je vais même dire depuis plusieurs mois, notamment sur le latéral. Voire sur celui qui occupe le poste haut, moi je militais pour Digne Barcola, dans le sens où Barcola amène beaucoup de profondeur, sauf que contre des équipes qui jouent dans leurs 18 mètres, c'est sûr que son influence, ça sert pas grand chose, et c'est là où peut-être le constat, mais bon, qu'on avait déjà fait, qu'on peut faire sur le match hier soir, hein, parce qu'il y a pas grand chose à sortir, mais c'est que il a quand même sur le banc, notamment au niveau offensif, alors qu'on est déjà très fort, des solutions alternatives qui amènent des profils différents. Voilà, Doué, on sait qu'il est très habile dans les petits périmètres et le faire rentrer hier soir. Bon, c'est le remplaçant naturel aussi de Barcola. Mais
pour proposer sur un match qui est
fermé, qui est fermé comme hier soir, quand tu as Doué qui rentre, voire Cherki. Ah ben d'un coup jouer si bas, ça devait être très très dangereux. Voilà. Et par contre, Barcola, lui, contre des équipes qui vont nous prendre le ballon, par exemple l'Espagne, je sais pas si on arrivera jusque là, mais qui vont nous prendre le ballon. Là, il y aura gros danger, parce que lui, quand il y a 40 mètres dans le dos des défenseurs, il va falloir se le taper, celui-là. Donc, Didier a quand même beaucoup de chance, avec l'effectif qu'on a. Hein.
Tu as raison de le souligner, Eric. En fait, cette concurrence qu'il y a à plusieurs postes, c'est pas parce qu'il y a déficience, bien au contraire. C'est qu'il y a caractéristiques complètement différentes. Et donc, en fonction des équipes adverses, est-ce que ces équipes-là proposent, Didier Deschamps, il a de multiples alternatives. Et ça, c'est plutôt bon signe pour aller le plus loin possible dans cette compétition.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on peut pas tirer comme conclusion, parce que c'est vrai que dans l'émotion, j'ai notamment beaucoup de messages là-dessus sur WhatsApp, beaucoup mettent en avant l'entrée de Désiré Doué. Désiré Doué, il a pas forcément gagné sa place de titulaire sur son entrée hier. C'est juste qu'on est sur un profil de match, comme tu le disais, Eric, différent, qui permet d'exprimer ses qualités. Mais Barcola contre le Maroc, par exemple, ça peut tout à fait faire à l'affaire.
Le Barcola, chaque fois qu'il est rentré aussi, il a été décisif. Donc, c'est pour ça qu'il est là, et c'est parce que c'est son profil qui permet à Didier d'avoir autre chose que des Dembélé ou Olise qui aiment bien les ballons dans les pieds, et surtout qui amène peut-être l'équipe adverse à s'étirer un peu plus, parce que il y a cette profondeur qui devient dangereuse. Mais en effet, sur le match hier soir, et Dieu sait que bon, moi c'est mon pote, on a longtemps joué ensemble, donc je l'ai toujours défendu et encensé, mais Didier, quand il doit faire un changement offensif hier soir, il est obligé de faire celui-là. Je veux dire, on l'aurait tous fait.
Je
suis pas entraîneur, j'aurais sûrement été peut-être entraîneur. Voilà. Encore comme Mateta avec les ballons dans la surface et les centres. Ça aurait pu être une autre alternative. Mais le changement est naturel hier soir. Voilà, ça a enlevé ce que fait Didier, qui est extraordinaire. Et Didier, il veut sortir par la grande porte, ne l'oublions jamais. Hein.
Oui.
Ah bah là. Et s'il gagne cette Coupe du Monde en faisant du jeu, alors qu'on lui a reproché d'être un entraîneur ennuyeux, ben du coup, il y aura moins de débats sur Didier, bizarrement.
Ah mais il aura tout fait.
Statut au Stade de France.
Ouais. Ah c'est bon. Ah tu milites toi comme ça tout de suite. Oui. Tu peux lancer l'idée, voilà. Oui. On dirait.
C'est pas très culturel, mais Marc a raison. Ouais. C'est pas très culturel, mais imaginons ce qu'il a fait en tant que joueur et si jamais il regagne une Coupe du Monde en tant qu'entraîneur. Et pourquoi nous en France on commencerait pas à faire des statues à des mecs?
Bah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai.
Bah, oui, en Angleterre, tu vas devant tous les stades.
Il y a des devant le vélodrome. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de statues dans les. Non, mais c'est pas un truc très français, ça. C'est vrai de reconnaître bien les anciens, d'afficher les maillots et tout. Très anglais, très anglo-saxon. T'as raison. Écoutez, voilà. Si jamais ça arrive, ce sera parti d'ici, depuis Barcelone, voilà. De la voix de Marc Madio. Allez, les amis, Eric, je te remercie d'avoir été avec nous.
Allez, je vous écoute sur le vélo parce que je comprends pas tout, moi.
Viens nous voir.
Bah oui, voilà, attends, t'es pas loin, on est à Barcelone, tu peux venir de Marseille, là, en vrai.
Vous passez pas par le Mont Ventoux cette année, là, je crois, là. C'est les filles qui passent cette année.
On passe deux fois par l'Alpe d'Huez, ouais. Ça va, ouais. C'est pas mal aussi.
Scandale.
Allez, à bientôt dans les grandes gueules du sport. Tiens, j'ai un message intéressant d'Olivier sur WhatsApp qui me dit ce match contre le Paraguay sera très important. Si on joue l'Argentine en finale. Pourquoi pas? Pour s'habituer au match piquant. Ça va être intéressant.
Tout à l'heure, je parlais de 98, mais on va revenir il y a 4 ans en arrière.
Ah, bah là, bien sûr.
Il y a un petit truc qui est en travers de la gorge.
On utilise à chaque fois le passé, effectivement, pour se remotiver. Oui. Allez, les amis, dans un instant, on va parler du Tour de France. Est-ce que Jonas Vingegaard a marqué un vrai coup, là, face à Tadej Pogacar en prenant le maillot jaune hier sur le chrono par équipe? On revient dans un instant depuis Barcelone avec les grandes gueules du sport sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.